VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 7 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au sommet du G5 Sahel à Bamako, les chefs d'État des pays membres ont décidé de créer une force conjointe contre le terrorisme.
Au Nigeria, inquiétude quant à la santé du président Muhammadu Buhari, qui a décidé de prolonger son séjour en Grande-Bretagne.
La cour d'appel de San Francisco va entendre cet après-midi les partisans et adversaires du décret migratoire du président Trump.
Monsieur Trump, qui a promis hier en Floride de renforcer les contrôles aux frontières pour lutter contre le terrorisme islamique radical.
En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique sont désormais complètement assiégés à Al-Bab, leur dernier fief dans la province septentrionale d'Alep.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Les présidents du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad ont convenu hier à Bamako de créer une force militaire conjointe contre le terrorisme. Des détails avec Eric Manirakiza.
Cette force est constituée pour combattre les groupes djihadistes qui se servent notamment du Mali comme base de repli. Baptisée force conjointe du G5 Sahel, ce sommet de Bamako n'a précisé ni les effectifs, ni le commandement, ni le mode de fonctionnement. Le Nigérien Mahamadou Issoufou a indiqué qu'ils vont demander une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour appuyer sa création. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient déjà convenu le 24 janvier à Niamey de la mise en place d'une force de sécurisation du Liptako-Gourma, une région à cheval sur les trois pays. Un communiqué précise quelle sera la composante de la future force conjointe. Le 18 janvier, un attentat suicide a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali. Cette localité est également un lieu de départ des attaques contre d'autres pays, ont affirmé dans un document les cinq chefs d'État.
Nous reviendrons sur ce sommet dans la seconde partie de cette édition.
Inquiétude au Nigeria concernant l'état de santé du président Muhammadu Buhari. Il a repoussé son retour de vacances au Royaume-Uni pour raisons médicales. Morgan Guiriec nous en dit plus.
L'ancien général de l'armée, âgé de 74 ans, devait initialement reprendre le travail hier lundi à Abuja, la capitale du Nigeria. Mais la veille, son cabinet a annoncé qu'il prolongerait son séjour à Londres sur recommandation de ses médecins en attendant les résultats d'une série d'examens médicaux effectués à l'occasion de ses congés. Aucun calendrier n'a été communiqué concernant le retour du président et aucun détail donné sur les examens subis par le chef de l'État, absent depuis le 19 janvier. Les Nigérians inquiets demandent plus de transparence. Il faut dire que la santé du chef de l'État est une question sensible au Nigeria. En 2010, le président Umaru Yar'Adua est décédé suite à des problèmes rénaux longtemps cachés au grand public.
La famille de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, décédé mercredi à Bruxelles, annoncera ce mardi la date du retour de la dépouille à Kinshasa. Valentin Moubaké, l'un des dirigeants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, chargé de l'organisation des obsèques, a expliqué à VOA Afrique que l'annonce serait faite depuis Bruxelles. Le gouvernement congolais a annoncé vouloir organiser des funérailles dignes du Premier ministre que fut Tshisekedi au début des années 90, pendant la période d'ouverture démocratique sous la dictature de Mobutu Sese Seko.
Des agents de la sécurité soudanaise ont rapatrié lundi de Libye un bébé de 4 mois dont les parents soudanais sont morts en combattant dans les rangs du groupe djihadiste État islamique, a indiqué un responsable. Le transfert du nourrisson de sexe féminin à Khartoum a eu lieu après une opération coordonnée entre les autorités libyennes, le Croissant-Rouge libyen et le puissant service national du renseignement et de la sécurité soudanais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la cour d'appel de San Francisco a annoncé lundi qu'elle entendrait cet après-midi les partisans et les adversaires du décret de Donald Trump interdisant l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de sept pays à majorité musulmane. Jean-Roger Bion fait le point.
Les États de Washington et du Minnesota à l'origine de la plainte qui a débouché sur un ordre de suspension temporaire de l'application du décret rendu par un juge fédéral de Seattle et l'administration Trump qui a fait appel de cette décision ont fourni des documents à la Cour dans la journée de lundi. Celle-ci a décidé d'écouter une présentation orale des arguments des deux camps mardi à 15h, 23h GMT avant de rendre sa décision. Bob Ferguson, le procureur général de l'État de Washington, s'est dit confiant. Dans un tribunal, ce n'est pas la voix la plus forte qui s'impose, c'est la Constitution, a-t-il déclaré. Si l'appel du département de la justice n'aboutit pas, l'administration Trump devra se tourner vers la Cour suprême pour tenter de faire appliquer à nouveau le décret controversé.
En visite hier au CENTCOM en Floride, le président Trump a promis de renforcer les contrôles aux frontières pour lutter contre le terrorisme. Claire Morin-Gibourg.
Sans donner de détails sur sa stratégie, Donald Trump a assuré que les États-Unis et leurs alliés vaincraient le terrorisme islamique radical. Il a ajouté « Nous envoyons un message uni à ces forces de mort et de destruction. L'Amérique et ses alliés vous vaincront ». Le président républicain a signé fin janvier un décret donnant jusqu'à fin février à ses responsables militaires pour lui présenter un plan détaillant une stratégie exhaustive pour vaincre le groupe État islamique. Le groupe djihadiste est engagé dans une campagne de génocide, a ajouté le président Trump, affirmant que les terroristes sont déterminés à frapper notre pays, comme ils l'ont fait lors des attentats du 11 septembre. Donald Trump a accusé la presse d'être malhonnête et de ne pas mentionner certaines attaques dans les médias. Le CENTCOM a mené près de 18 000 frappes en Syrie et en Irak depuis le début, en août 2014, des opérations de la coalition internationale dirigée par les Américains contre le groupe État islamique.
En Grande-Bretagne, le président de la Chambre des communes s'est dit fermement opposé lundi à un éventuel discours du président Trump devant les députés britanniques lors de sa visite d'État au Royaume-Uni prévue cette année. Les précisions de Tatiana Mosso.
John Bercow, issu des rangs conservateurs, a souligné qu'un tel discours n'était pas un droit automatique, mais un honneur qui se mérite, auquel il s'opposerait suite à la décision de Donald Trump d'interdire temporairement l'entrée aux États-Unis des réfugiés et des ressortissants de sept pays majoritairement musulmans. La première ministre Theresa May a essuyé une pluie de critiques après avoir convié Donald Trump à effectuer une visite d'État au Royaume-Uni cette année. Une invitation formulée lors de sa rencontre fin janvier avec le président américain à Washington. Plus de 1,8 million de personnes ont depuis signé une pétition en ligne réclamant l'annulation de cette visite et les députés sont censés en débattre courant février. Notre combat pour l'égalité de tous devant la loi et en faveur d'une justice indépendante sont des préoccupations majeures, a dit John Bercow pour justifier sa décision au nom de la Chambre des communes. Outre sa prise de position, 163 députés britanniques ont par ailleurs signé une motion visant à empêcher un discours de Donald Trump à Westminster.
En Roumanie, le gouvernement reste sous pression face à des dizaines de milliers de personnes qui continuent à descendre dans la rue pour demander sa démission. Cette mobilisation sans précédent a commencé il y a une semaine suite à une tentative d'assouplir la législation anticorruption. Le Premier ministre Sorin Grindeanu a appelé la population au calme, assurant avoir compris le message des manifestants, mais il a exclu de démissionner.
En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique sont désormais complètement assiégés dans la ville d'Al-Bab, leur dernier fief dans la province septentrionale d'Alep, visée par une double offensive. Al-Bab est dans la ligne de mire de rebelles syriens appuyés par des troupes turques depuis près de deux mois. Mais les forces du régime de Bachar al-Assad, soutenues par la Russie, ont récemment lancé une offensive pour reprendre la ville.
Amnesty International a accusé mardi le régime syrien d'avoir pendu quelque 13 000 personnes en 5 ans entre 2011 et 2015 dans une prison gouvernementale près de Damas. L'ONG a dénoncé une politique d'extermination intitulée « Abattoir humain, pendaison et extermination de masse à la prison Saïdinaya ». Le rapport de l'ONG se base sur des entretiens avec 84 témoins, au nombre desquels des gardiens, des détenus et des juges.
En Israël, le Parlement a voté lundi une loi qui permettra à l'État de s'approprier des centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. Une loi qui légalise, selon l'Organisation de libération de la Palestine, le vol de terres palestiniennes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a informé l'allié américain du débat sur cette question. La Maison-Blanche avait estimé jeudi soir que la construction de nouveaux logements pourrait ne pas aider à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Hier, en Haïti, en fait, c'est aujourd'hui en Haïti que Jovenel Moïse doit être investi à Port-au-Prince, président du pays, après une crise électorale qui a paralysé la vie politique haïtienne pendant un an et demi. Jovenel Moïse était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en octobre 2015, mais en raison de contestations et de fraudes massives, le vote avait été annulé. L'homme d'affaires a finalement été confirmé président en novembre 2016, lorsque le scrutin a été reprogrammé après le passage de l'ouragan Matthew.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco d'Ili Diko.
Le gouvernement malien prévoit une croissance de 5,3% pour l'année 2017. Cette projection repose sur les attentes liées à de fortes productions dans les secteurs agricoles, céréales et coton, et miniers, principalement l'or. La hausse prévisionnelle de la production agricole s'explique par les efforts de l'exécutif pour fournir des intrants aux producteurs, mais aussi par la mécanisation agricole. L'activité aurifère sera favorisée par l'ouverture des mines de Fekola et de Yanfolila. En Côte d'Ivoire, dans un contexte de chute des cours, le conseil café-cacao réaffirme le prix garanti aux producteurs. La directrice du conseil a démenti dans une interview la rumeur selon laquelle une baisse des prix payés aux producteurs se profilait. Le faible cours mondial du cacao, moins 25% en 4 mois, n'aura donc pas d'impact sur le prix de 1100 francs CFA par kilo garanti aux producteurs depuis le début de la campagne, le 1er octobre dernier. Le prix annoncé sera payé jusqu'au 31 mars 2017. L'agence Fitch dégrade la note du crédit de la Tunisie en raison d'une baisse de l'activité touristique qui a reculé de 8% en septembre dernier après une baisse de 38% au premier trimestre 2016. Cette note du crédit tunisien à long terme passe de BB- à B+ avec perspective stable. Selon l'agence, ce recul s'explique par un contexte de risque élevé pour la sécurité, un ralentissement des investissements et des grèves peu favorables au tourisme.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Liesse populaire au retour des lions indomptables au Cameroun.
Oui, des milliers de Camerounais ont accueilli à l'aéroport de Yaoundé les lions indomptables qui, vous le savez, ont remporté la veille la 31e Coupe d'Afrique des Nations en battant en finale l'Égypte 2-1. À l'aéroport international de Yaoundé, le capitaine des lions indomptables, Benjamin Mukanjo, encadré par de nombreux policiers et gendarmes, a fait une brève apparition en compagnie de certains de ses coéquipiers.
Les demi-finales de la Coupe du Roi en Espagne.
Le FC Barcelone, vainqueur 2-1 de l'Atlético Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi, espère décrocher sa qualification ce mardi au match retour et exaucer ainsi le souhait de l'entraîneur Luis Enrique qui rêve d'affronter en finale son ancien club du Celta Vigo. Pour cette demi-finale retour, le Barça sera privé de Neymar, suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Quant à Lionel Messi, il devra faire attention à ne pas récolter un nouvel avertissement qui serait synonyme de finale ratée pour lui. Dans l'autre demi-finale, tout reste ouvert entre Alaves et le Celta Vigo.
Prolongation de la suspension de la Russie pour dopage en athlétisme.
Tout à fait, le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme a approuvé la recommandation de la Task Force de prolonger la suspension de la Russie, bannie, vous le savez, en novembre 2015, après les révélations d'un vaste système de dopage organisé. Dans ce contexte, il paraît difficile que la Russie puisse être réadmise dans le concert des nations avant les mondiaux d'athlétisme de Londres. Ils auront lieu cette année en août prochain dans la capitale britannique. Enfin, Idrissa, avec vous, un mot de NBA, le championnat de basket nord-américain.
LA Lakers, New York Knicks, 121-107, Cleveland, Washington, 104-135, Oklahoma City, Indiana, 90-93, LA Clippers, Toronto, 109-118, Utah, Atlanta, 120-95, Philadelphia, Detroit, 96-113, Phoenix, New Orleans, 106-111, Miami, Minnesota, 115-113, et enfin Dallas, Denver, 87-110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons à nos dossiers du jour. Création d'une force commune, s'engager à faire face aux menaces en mutualisant les efforts afin de parvenir aux objectifs de paix, sécurité et développement. Et prise de mesures immédiates pour sécuriser les frontières et mettre en place des projets structurants. Telles sont les principales recommandations du troisième sommet extraordinaire du G5 Sahel, dont les travaux se sont déroulés au Mali. Comme promis, nous y revenons avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Après Nouakchott, N'Djamena, c'est Bamako qui a abrité le troisième sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le président malien préconise trois objectifs pour venir à bout des terroristes. Ibrahim Boubacar Keïta.
Le premier, c'est de procéder à une analyse objective de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace commun. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faites par nos partenaires, les opérations militaires transfrontalières et la montée en puissance du Collège de défense du Sahel. Enfin, le troisième objectif, identifier les pistes concrètes d'action des semaines et des mois à venir en vue de promouvoir la paix et le développement durable.
Pour le président tchadien, l'heure est grave. Il faut agir vite et plus efficacement parce que le phénomène s'enracine de façon dangereuse dans le Sahel. Idriss Déby, président du Tchad.
Nous devons nous donner les moyens et les ressources nécessaires pour livrer une guerre sans merci contre ces obscurantistes qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. Aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à rude. Je nous invite à nous investir, comme nous le faisons déjà si bien, pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix.
L'attaque du 18 janvier 2017 contre le MOC a été condamné par les présidents du G5 Sahel qui ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Najim El Hadj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel.
Abordant le processus de paix au Mali, les chefs d'État ont salué les efforts accomplis par le gouvernement du Mali sous le leadership de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Les chefs d'État ont demandé aux groupes armés signataires du dit accord de faire preuve de bonne foi, de sincérité et de bonne volonté dans leurs engagements.
Dans le communiqué final du sommet, les chefs d'État ont décidé la mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel. Najim El Hadj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel.
La mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel, conformément à l'option 1 à court terme et l'option 2 à moyen et long terme, en prenant en compte les facteurs suivants. Un mandat clair de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies. Un financement soutenu de la force conjointe. Des règles d'engagement précis en vue de combattre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Deuxièmement, la suppression sans délai des visas pour tous les types de passeports, conformément aux dispositions légales en vigueur dans chaque pays. Troisièmement, l'approfondissement de la réflexion sur les modalités de création d'un fonds spécial de financement des activités de défense et de sécurité dans les États membres du G5 Sahel.
Les chefs d'État ont aussi annoncé la création de la compagnie de l'organisation dénommée Air Sahel, qui dispose déjà de ses premiers appareils. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été désigné nouveau président en exercice de l'organisation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Eh bien, au Cameroun, les cours devraient reprendre lundi dans les régions anglophones du pays, mais cette reprise se fait timidement. Le week-end dernier, sur les antennes de la Radio Nationale, le gouvernement avait pourtant annoncé que le mot d'ordre de grève était levé. Pour en discuter, John Linden s'est entretenu avec Emmanuel Jules Ntap, correspondant de VOA Afrique à Yaoundé.
Alors, il faut dire que la date du 6 février 2017 qui était annoncée comme étant celle de la reprise de cours dans les deux zones anglophones du Cameroun qui étaient paralysées et qui restent encore paralysées par le mouvement de grève depuis le 21 novembre, il faut dire que la reprise de cours n'a pas été effective normalement comme le souhaitait le gouvernement et même l'esprit de la lettre du communiqué qui a été rendu public samedi dernier. Les sources que nous avons contactées à Panenda, soit des sources officielles ou bien des journalistes que nous ont fait part de ce que un mouvement appelant à une ville morte a été largement suivi, ce qui fait donc que la reprise des cours normale n'a pas été effective hier à Bamenda, à Boya, ainsi que dans les autres principales villes de ces deux régions anglophones du Cap.
Alors, on parle également des tracts qui sont distribués dans la ville et qui appellent aux journées ville morte. Qu'est-ce qu'il en est réellement?
Alors, il faut dire que c'est une nébuleuse, mais qui est réelle, en ce sens que les gens sont effectivement en possession des tracts, mais on ne sait pas qui se casse derrière. Il y en est véritablement le commanditaire. Les tracts appellent à trois journées de ville morte. Il y a la journée du 6 février, il y a la journée du 10 février et la journée du 11 février. Pour la date du 10, il faut préciser que ce sont là des dates stratégiques. Parce que le 10 février, on a un jour de la célébration de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Et naturellement, le 11 février est une journée fériée au Cameroun, au cours de laquelle toute la jeunesse du Cameroun est mobilisée à prendre part à toute une fête en mémoire de la jeunesse. Je voudrais préciser que la date du 11 février symbolise cette date de rattachement du Cameroun qui était sous la direction du Nigeria à l'autre partie du Cameroun sous administration française. Et les commanditaires donc des grèves, que ce soit des enseignants ou des avocats, qui sont dans une logique de sécession et de fédéralisme, ne voudraient pas que cette fête-là puisse être célébrée dans les deux zones anglophones. Au fur et à mesure qu'on s'approche donc de cette fête, il y a donc cette manœuvre-là, les tracts, qui font en sorte que, visiblement, les parents ont peur. Ce d'autant plus qu'au cours de la nuit de dimanche à lundi, il nous a été rapporté, nous avons vérifié d'ailleurs cette information, qu'il y a un bâtiment administratif qui a pris feu à Bamenda. Tout cela donc sème tout un vent d'insécurité qui est tel que, malgré le communiqué qui a été rendu public appelant à la levée du mot d'ordre de grève, malgré les bonnes intentions du gouvernement camerounais, le déploiement sécuritaire, il faut dire que dans les deux zones du Cameroun, à Bamenda, à Boya particulièrement, la vie ne tourne pas encore normalement tel que l'aurait souhaité le gouvernement.
Emmanuel Jules Ntap, correspondant de VO Afrique à Yaoundé. Au Sénégal, les jeunes s'engagent massivement dans la politique. Ils suivent en cela, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué, l'exemple d'illustres aînés.
Pour entrer dans la politique, les jeunes utilisent les mouvements citoyens, les regroupements étudiantins et divers types d'associations comme porte d'accès. La politique est pour eux un moyen de se former, mais aussi une voie rapide vers une vie sociale conforme à leurs aspirations. Aliou Ndiaye est l'un des responsables du mouvement des élèves étudiants du parti au pouvoir, l'APR.
Avec la politique, je pense qu'on acquérit de l'expérience, mais aussi ça nous permet aujourd'hui, en tout cas, d'aspirer les grandes instances pour pouvoir gérer même notre cité, ainsi de suite. Mais ce qu'on constate qu'aujourd'hui, les jeunes, la politique est devenue raccourcie au moyen d'ascension sociale parce qu'il y a un engagement économique derrière l'engagement politique, donc ce fait. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'engagent dans la politique aujourd'hui pour avoir une ascension sociale.
Pour Seydina Issa Laissamb, responsable des jeunes du Parti socialiste sénégalais, l'engagement en politique doit se faire au service de la nation, sans contrepartie.
Un jeune doit être ambitieux pour son pays. Comme le disait le président Kennedy, il ne faudrait pas se demander ce que mon pays fait pour moi, mais ce que je devrais faire pour mon pays. Donc ça, c'est un signal fort pour montrer que le Sénégal est sur une voie de développement, que les jeunes sont conscients des missions qui les attendent. Et il serait important vraiment de matérialiser cet engagement-là par un engagement pur, sans intérêt, désintéressé, et en prenant en compte les besoins des populations pour les traduire en actes concrets.
Concernant la violence dont les jeunes sont souvent accusés, le responsable socialiste du département de Dakar appelle les adultes à avoir des comportements responsables pour éviter les affrontements dans le champ politique.
Il faudrait que dans les organisations de masse, dans les partis politiques, que la démocratie puisse y prévaloir, que les discussions franches et sérieuses puissent exister et des débats de qualité pour éviter cette violence-là. Parce qu'en général, on note que la violence vient des désaccords. Et il faudrait tant soit peu que les adultes soient beaucoup plus regardants sur leur démarche, sur leur manière d'associer les jeunes aux prises de décision. Et là, je pense que la violence serait peut-être un mauvais souvenir sur le champ politique.
Au Sénégal, l'engagement politique de la jeunesse demeure une tradition. Plusieurs structures de la République sont dirigées par des jeunes issus des partis politiques. Cette accession au sommet de l'État est un objectif pour beaucoup de jeunes qui en font la source de leur combat politique. Cependant, une grande partie de la jeunesse demeure convaincue que tout engagement doit se faire de manière patriotique. Seydina Abagui, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Revenons à présent sur la journée du 6 février, la journée mondiale consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'ONU et une multitude d'ONG ne cessent d'appeler à l'abandon total d'une telle pratique. Nathalie Barge a joint au Mali le professeur Kalilou Ouattara, député et chirurgien urologue, qui lutte depuis 36 ans pour l'abandon des mutilations génitales dans un pays où aucune loi ne l'interdit.
La problématique d'une loi contre l'excision au Mali est posée à plusieurs forums. Au Mali, on pense qu'il faut éduquer, mais personne ne veut prendre la loi.
Comment vous réagissez-vous à cela finalement? Le fait que bon, il y a quand même plusieurs pays qui ont déjà adopté cette loi, certains pays depuis quasiment 20 ans.
Je pense qu'il y a un problème qui est là. D'abord, il y a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est ce ministre qui peut initier un tel projet de loi. Et quand le projet de loi vient à l'Assemblée, nous en tant que médecins à l'Assemblée, nous de convaincre les députés. Mais le problème est qu'aucun ministère, ni le ministère de la Santé, ni le ministre de la Famille, de l'Enfant et de la Femme n'ont le courage politique de faire venir un tel projet de loi à l'Assemblée. Si moi, en tant que médecin, je vais faire une proposition de loi, les propositions de loi venant d'un député à l'Assemblée nationale du Mali passent rarement.
Alors, en tant qu'expert en chirurgie de la fistule obstétricale, qu'auriez-vous à dire sur les femmes et les jeunes filles que vous avez consultées après excision?
Ça fait déjà 32 ans que moi j'étais le chef du service d'urologie de l'hôpital du Point G. J'ai rencontré plusieurs cas d'excision, des excisions fraîchement pratiquées, des séquelles d'excision qu'on voit tous les jours. Et l'excision est la première cause d'incontinence d'urine chez la petite fillette au Mali. Donc, pour empêcher cette excision, il y a même des résultats qui sont obtenus. Il y a certaines maires même de certaines communes qui ont interdit l'excision chez eux. Il y a certaines excisées même qui ont déposé le couteau. Mais du côté du gouvernement, vraiment, c'est comme ils disent, c'est des lois sensibles. Vous avez vu, même la loi qui était là sur le genre, où on disait qu'il faut 30% pour les femmes quand on doit désigner les postes, c'est cette loi à traîner. Et vous savez que la loi sur le code de la famille a été voté à l'Assemblée et le président, sous la pression des religieux, a été obligé de retirer. Donc vous voyez que le Mali fait exception et le Mali même anéantit l'effort des autres pays qui nous entourent, qui ont une loi. Parce que si on ne peut pas faire dans ces pays-là, ils viennent au Mali, ils viennent du Burkina, ils viennent de la Guinée, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent se faire exciser au Mali pour retourner chez eux. Donc vous voyez, c'est une situation déplorable qui est là. Moi-même, en tant que médecin, combien de fois je suis parti présenter des exposés sur les séquelles de l'excision.
C'était le professeur Kalilou Ouattara, député et chirurgien urologue au Mali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.